VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. L'Afrique du Sud a décidé de quitter la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui le ministre sud-africain de la justice, Michael Matsuta, à la suite d'une vive polémique l'an dernier sur le refus de Pretoria d'arrêter le président soudanais Omar al-Béchir. L'Afrique du Sud a annoncé par écrit au secrétaire général de l'ONU son retrait de la CPI, a déclaré M. Matsuta lors d'une conférence de presse à Pretoria. La CPI entrave l'aptitude de l'Afrique du Sud à honorer ses obligations en matière de respect de l'immunité diplomatique, a-t-il expliqué, pour justifier le refus de Pretoria d'arrêter le président soudanais recherché par la CPI. Le Maroc prend des dispositions pour son retour au sein de l'Union africaine qu'il avait quitté à cause de l'affaire de la RSD et du Sahara occidental. Selon Mustapha Tossa, journaliste et politologue, le Maroc veut revenir, mais il veut aussi préparer les conditions confortables, cohérentes, logiques et politiquement pertinentes pour son retour. On l'écoute au micro d'Arzuma Compaoré.
Ce qu'on peut dire sur ce périple africain du roi du Maroc, Mohamed VI, c'est qu'il touche l'Afrique de l'Est pour la première fois. Le roi du Maroc entame une tournée qui va concerner le Rwanda, la Tanzanie et l'Éthiopie. C'est une région où le Maroc n'avait pas de relations stratégiques traditionnelles avec ces pays, donc c'est une première. Alors pourquoi c'est important maintenant? Parce que ça intervient dans un contexte où le Maroc a formulé une demande pour retrouver son siège au sein de l'Union africaine qu'il avait quitté en 1984 suite à l'admission du Front Polisario. Maintenant, il veut revenir. C'est parce qu'on arrive à la fin de l'aventure séparatiste du Polisario. Il est question de trouver une sortie de crise. Le Maroc propose l'autonomie et il est en train de militer diplomatiquement pour que l'ensemble des pays africains adhèrent à sa thèse et donc le soutiennent dans la solution politique qu'il propose.
Quels sont les différents avantages, en tout cas, que le Maroc pourra apporter?
De nombreuses sociétés, de nombreuses entreprises utilisent le Maroc comme une espèce de hub pour distribuer leurs marchandises, leur expertise, leur savoir-faire et leur rayonnement sur l'ensemble du continent africain. Sur le plan religieux, alors que le continent subit de plein fouet le radicalisme et la montée de l'extrémisme et la montée de la pensée radicale de l'État islamique, le Maroc se propose d'apporter des solutions d'islam modéré. Le roi incarne l'islam modéré du juste milieu qui est capable d'éteindre la violence extrémiste.
Quelles sont les conditions que le Maroc devra remplir pour réintégrer l'Union africaine?
Le Maroc veut revenir, mais il veut aussi préparer les conditions confortables, cohérentes, logiques et politiquement pertinentes pour son retour. Il ne peut pas cohabiter avec une entité séparatiste non reconnue par la communauté internationale. Le Polisario n'est reconnu que par quelques États africains. Il n'est pas reconnu par l'ONU, il n'est pas reconnu par l'Union européenne, il n'est pas reconnu par le Conseil de coopération du Golfe, il n'est reconnu par aucune autre institution internationale. Donc il est illogique, inadmissible que le Royaume du Maroc puisse être dans la même enceinte qu'une entité séparatiste.
Et selon vous, pourquoi les autres pays n'en font pas un problème? Les autres pays de l'Union africaine qui n'exigent pas en fait ce gel du Polisario?
L'Union africaine est divisée en deux parties, en deux grosses parties. Une partie qui accueille favorablement le retour du Maroc, qui encourage le retour du Maroc et qui est prête, sinon, à retirer la reconnaissance, du moins à geler l'appartenance du Polisario à l'Union africaine. Et une autre partie minoritaire, mais très activiste, pilotée directement par la diplomatie algérienne. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union africaine est devenue, le continent africain est devenu, depuis un certain temps, un théâtre de compétition entre le Maroc et l'Algérie. Les Marocains défendent leur intégrité territoriale, ne reconnaissent pas le séparatisme du Polisario, alors que les Algériens veulent absolument qu'il y ait une entité indépendante, le Sahara, au sud du Maroc. La bagarre, elle dure depuis 40 ans. Et ce qu'on voit en ce moment, ce ne sont que les péripéties d'un bras de fer diplomatique et historique entre deux puissances régionales que sont le Maroc et l'Algérie, avec comme théâtre de manœuvre et d'opération l'Union africaine et le continent africain.
Mustapha Tossa, journaliste et politologue. Au Mali, grève dans le secteur de la santé. Depuis 5 jours, les médecins et les infirmiers ont déposé la blouse. Les grévistes estiment que l'État malien refuse de satisfaire leurs revendications, comme l'intégration dans la fonction publique de contractuels et l'augmentation de diverses primes. Kassim Traoré est notre correspondant à Bamako.
Les manques d'affluence au niveau des guichets d'entrée du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré entourée de Bamako a une raison. Jimmy Kanté, agent sanitaire au CHU Gabriel Touré de Bamako, membre du comité syndical.
Les revendications tournent essentiellement autour de trois axes majeurs, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie et de travail, l'avènement d'une bonne gouvernance dans les structures sanitaires et l'amélioration des conditions de soins, d'accueil et d'hospitalisation des patients qui arrivent dans nos structures sanitaires.
Les usagers des centres de santé publique pensent que les 5 jours sont trop. Un avis partagé par Jimmy Kanté du comité syndical du CHI Gabriel Touré.
Une journée de grève pour un travailleur socio-sanitaire, c'est excessif. 2 jours, c'est trop. Et 5 jours, c'est vraiment inadmissible. Ça, nous le reconnaissons. Mais comment voulez-vous, lorsque le partenaire en face n'est pas vraiment prêt à soulager sa propre population?
Après ces 5 jours de grève, le syndicat national de la santé et de l'action sociale va tirer le bilan et adopter la conduite à tenir. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, on s'est dit disposé à faire le dialogue avec les syndicalistes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les dirigeants de 28 pays de l'Union européenne veulent diminuer les arrivées et accélérer les renvois de migrants africains irréguliers grâce à des pactes avec certains pays africains. Les dirigeants de l'Union européenne ciblent notamment des pays comme le Niger, le Nigeria, l'Éthiopie, le Mali et le Sénégal.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Présidentielle américaine 2016, le républicain Donald Trump persiste et signe. Il dit qu'il reconnaîtra les résultats du scrutin seulement s'il gagne, mais il se réserve le droit donc d'introduire des recours. Plusieurs leaders républicains dénoncent cette position. Timothée Donangmaï.
Le candidat républicain maintient ses accusations de fraude électorale sans fournir de preuves. Les autres républicains redoutent l'effet négatif de cette controverse sur leurs efforts pour préserver leur majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Dans une vigoureuse déclaration écrite, le sénateur John McCain de l'Arizona, candidat malheureux à la présidentielle de 2008, face au démocrate Barack Obama, martèle qu'accepter les résultats électoraux s'inscrit dans la tradition américaine. Dans diverses interviews télévisées jeudi, la directrice de campagne du candidat républicain, Kellyanne Conway, a fait savoir que Donald Trump a simplement mis en garde les Américains contre la fraude électorale. Il est disposé à accepter les résultats s'il n'y a pas de fraude généralisée, a-t-elle expliqué.
Et puis le troisième et dernier débat de la présidentielle aux États-Unis a été suivi mercredi, soit par quelque 111,6 millions d'Américains, selon les chiffres d'audience définitive communiqués jeudi par l'Institut Nielsen. C'est bien moins que le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump le 26 septembre, qui avait captivé 84 millions de téléspectateurs, même plus que le deuxième duel entre la candidate démocrate et son rival républicain le 9 octobre, qui avait attiré, lui, 66,5 millions de téléspectateurs. Le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé aujourd'hui des crimes de portée historique qui se déroulent en Syrie et particulièrement à Alep, devenu selon lui un abattoir. À l'ouverture d'une session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU consacrée à la situation humanitaire à Alep, Zaïd Raad al-Hussein a accusé toutes les parties au conflit de violation des lois humanitaires internationales qui constituent, selon lui, des crimes de guerre. La session spéciale a été réclamée par 16 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Une résolution sera soumise au vote des membres du Conseil en fin de journée, mais la Russie, soutien du régime du président syrien Bachar al-Assad, va veiller à empêcher toute condamnation de Damas. Et puis, le groupe État islamique a revendiqué les attentats suicides qui ont visé aujourd'hui plusieurs bâtiments gouvernementaux de la ville irakienne de Kirkuk, dans le nord du pays, et une centrale électrique située dans la province du même nom, rapporte son agence de propagande Amaq. Ces attentats commis par plusieurs kamikazes ont fait au moins 17 morts, dont 16 dans une centrale électrique en cours de construction à Dibis, ville située à 40 km au nord-ouest de Kirkuk, ont indiqué des responsables. Nouvelle donc à retenir aujourd'hui, l'Afrique du Sud a décidé de quitter la Cour pénale internationale. La décision a été confirmée par le ministre de la Justice sud-africain Michael Masuta à la suite d'une vive polémique l'année dernière sur le refus de Pretoria d'arrêter le président soudanais Omar El-Béchir. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera avec Henri Francisque. Bon après-midi sur le continent.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.